Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Corinne Morel d'Arleux. Bonjour.
Bonjour.
Corinne Morel d'Arleux, vous êtes autrice pour enfants en littérature. Vous êtes aussi ancienne conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en 2021. Ensuite, nous avons Olivier Royer, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 2021, effectivement.
Et puis nous avons aussi Nicolas Héringer, donc citoyen militant pour le climat.
Sans aucun lien, ni futur, ni avenir, ni passé avec le conseil régional Aura.
Alors, je vous ai invité pour cette émission pour nous parler de cette situation d'urgence que vit le Diois depuis cette reprise d'incendie qui s'est effectuée en fin de semaine dernière. Et donc, vous êtes sur le terrain principalement. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous rapporter un peu ce que vous percevez de cette situation, et notamment auprès des habitants, sur cette actualité? Je peux commencer par Corinne, par exemple.
Oui, bah, d'abord merci à Erdiwa de l'invitation. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu 2-3 jours vraiment de sidération en fait pour tout le monde. Où, à part pleurer en regardant les flammes et en mesurant les panaches de fumée, beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, c'était mon cas, n'étaient pas capables de faire grand chose. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'accélération depuis 48 heures sur les actions, sur l'organisation. Moi, je passe régulièrement, comme tout le monde, au gymnase de Die, et je trouve que, c'est quand même complètement incroyable le saut d'organisation qui a été fait en l'espace de quelques heures, en fait, où maintenant on est vraiment sur un truc qui semble, qui est hyper pro, avec des super tableaux d'autogestion, beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui justement, je crois, ont envie de reprendre un peu de sentiment de puissance d'agir. Je crois que en fait, ce qui est le plus difficile dans cette situation, c'est quand on est impuissant et qu'on ne sait pas quoi faire, et que du coup, dès qu'on commence à passer justement à l'action sur le terrain, ça allège une partie de la peine qu'on ressent. Moi, à titre personnel, j'étais ce matin à Barsac. Pour le petit-déj des pompiers, des bénévoles, là aussi, l'organisation, elle est incroyable. Les pompiers, ils sont super. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un côté bisounours, mais franchement, c'est vraiment, vraiment chouette à voir. Et puis, sur des chantiers de bûcheronnage pour débroussailler et élaguer et couper autour des habitations, notamment sur la route d'Ausson, qui vient juste d'être évacuée là. Et pareil, en fait, on voit bien à quel point les appels sont hyper suivis des faits, les gens qui arrivent, notamment sur le bûcheronnage et les débroussailleux sont ultra efficaces, ultra aguerris, ultra réfléchis. Moi je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a vraiment une grosse accélération sur leur cas et que ça fait vraiment du bien à tout le monde, quoi.
Olivier Royer, pareil, vous êtes allé aussi sur le terrain et vous vivre un peu cette situation. Ce sont les mêmes sentiments qu'exprime Corinne?
Ah oui, j'aurais des difficultés à dire mieux. Ce que moi je noterais, c'est que on est dans la même situation que lorsqu'il y a eu le feu à Romeyer. Cette solidarité qui se met en place d'une manière naturelle sur le Diois, elle est vraiment remarquée par les premiers concernés, qui sont les pompiers qui viennent d'ailleurs et qui remercient vraiment grandement la population de se mobiliser comme ça. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive sur ce territoire, et qu'on puisse cultiver au-delà des catastrophes, au-delà des situations d'urgence, de pouvoir se parler, de pouvoir réfléchir à comment on peut s'organiser pour les chocs qui seront à venir, malheureusement, avec le dérèglement climatique qui s'amplifie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête pour les mois qui viennent, de voir comment tous ensemble on réfléchit à ce que sera le territoire dans lequel on veut vivre demain en sécurité. On reviendra certainement pendant l'émission sur ce concept de sécurité, mais je pense que la première des sécurités, c'est de pouvoir vivre sereinement sur le territoire qu'on habite.
C'est pareil pour vous, Nicolas Héringer. Vous êtes aussi citoyen, militant. Vous avez pu voir un peu cette évolution ces dernières 10 journées.
Oui, juste avant de rentrer en studio, j'ai eu un coup de fil pour me dire que le créneau sur lequel Olivier et moi, on était inscrits cette nuit au stade, c'était pas nécessaire de venir parce qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient inscrites. Je crois que c'est la troisième fois que ça m'arrive. C'est pas anecdotique, ça veut dire qu'il y a vraiment plein de monde qui a envie de s'investir et de s'impliquer. Et que, en fait, on déborde presque de bonne volonté. Donc moi, j'ai presque du mal à dire que je suis vraiment sur le terrain par rapport aux personnes qui sont jour et nuit au gymnase ou qui organisent des collectes, etc., mais qui n'ont pas le temps de venir ici pour en parler. J'ai fait un créneau, par exemple, au gymnase et les pompiers disaient qu'ils n'ont jamais été aussi bien reçus qu'ici. Ceux qui étaient sur le feu de Romeyer et qui revenaient disaient « si, on a été aussi bien reçus, c'était au moment du feu de Romeyer ». Et ils plaisantaient en gros en disant « d'habitude, on repart de ce genre d'intervention en ayant maigri, en ayant fondu parce qu'on perd du poids et que là, en fait, on prend du poids parce qu'on mange des caillettes, on mange des picodons, on a des repas géniaux qui sont préparés ». Et c'est pareil, ça dit beaucoup de ce qui se passe, quoi, de cette solidarité qui se met en place, qui est à la fois, comme le disait Corinne, quoi, un truc très autonome, très organique, et en même temps de la coordination là où il en faut. J'ai l'impression que le problème actuellement, au-delà de ces créneaux effacés, parce que ça déborde de bonne volonté, c'est qu'il y a presque trop à manger, il y a presque trop de choses. Au moins, il y a ça qui est beau et qui est chouette sur le territoire, de se dire que chacune. Il y a des bûcherons qui ont arrêté de travailler, quoi, leurs activités, pour juste se mettre au service des pompiers et sauver des villages, des bâtiments, des bouts de forêt, etc., quoi.
Je m'étais rendu lundi au dôme de Glandas pour interroger les personnes qui officient au ravitaillement. Et effectivement, il y a beaucoup de nourriture. Dans l'émission, est cité justement les produits qui sont nécessaires, hein, pour surtout le travail en terrain pour les pompiers. Donc des denrées de petite taille, hein, facilement à mettre dans une poche pour être sur le terrain. Il y avait aussi, alors je rappelle, hein, ça c'est une petite anecdote, une demande aussi de bidons de 5 litres pour les pompiers, hein, de manière à pouvoir acheminer de l'eau en évitant les bouteilles d'eau qui sont moins capacitantes. Alors, je reviens un peu sur cette ambiance où la population, par solidarité, s'est substituée au manque de moyens, hein, que l'État a mis pour cette extinction d'incendie, et peut-être même ailleurs. Alors, comment s'agence justement cette solidarité ?
Il y a différentes choses. Il y a des réseaux, Signal qui préexistaient, certains qui datent du Covid, d'autres qui ont été créés à d'autres moments dans le territoire. Et puis là, il y a toute une vague de réseaux Signal sur l'incendie qui se sont créés aussi, plus ou moins liés au réseau des tempêtes, qui est une initiative collective issue notamment des travaux de Pablo Servigne. Mais il y a aussi, il y a des personnes qui ne sont pas du tout sur Signal. Au gymnase, par exemple, ça s'organise en face à face. Les collectes, les personnes qui ont organisé les collectes, c'est des personnes qui s'étaient mobilisées sur le feu de Romeyer, qui avaient organisé ça très rapidement en étant en lien avec la caserne de pompiers et avec, j'imagine, la gendarmerie, et qui ont redéployé exactement la même chose. Mais je crois, dès le redépart du feu la semaine dernière, hop, le lendemain matin, il y avait une collecte qui était organisée devant Intermarché. D'autres personnes ont dit, ah, bah, on peut aussi en organiser devant Super U. Et là, depuis, on a dans toute la vallée. Il y en a à Creil, il y en a à Oust, il y en a à Saillant, etc. Avec des points de collecte, des points de distribution, des points où on fait des sandwichs. Il y a des personnes qui ont fait des sandwichs pendant 10 heures hier au collège. Il y en a d'autres qui le font à Chapia, où il y a le PC de sécurité. Donc, c'est un truc très organique, j'ai envie de dire, un peu par en bas, quoi, qui contraste un peu avec le truc par en haut de l'État qui est quand même en partie défaillant. Alors la partie défaillante, c'est pas du tout les pompiers et les personnes qui sont sur le terrain, quoi, mais c'est plutôt les moyens
décisionnaires.
Ouais, c'est ça.
Comment s'établit alors ce rapport entre les habitants, le bouche à oreille, certains réseaux par le téléphone, bien que les réseaux sont de plus en plus saturés, voire inexistants, puisque nous avons perdu l'émetteur et le système téléphonie sur le Mont Justin. Alors, est-ce qu'il y a aussi des numéros de téléphone fixes à votre connaissance qui permettent d'être informés? Ou alors, est-ce qu'il existe une ligne verte? C'est peut-être une utopie, ça.
Moi, personnellement, ma ligne verte, c'est la terrasse de l'étape. C'est-à-dire que en fait, c'est là, en gros, où je suis à peu près assurée de croiser des gens que je connais. Et de fait, enfin, je veux dire, à chaque fois, il y a du passage. Et donc, ça se fait aussi de cette manière-là et de manière parfois pas du tout prévue. Mais finalement, c'est aussi comme ça qu'il y a des choses qui se passent. Donc voilà, après, je sais pas, non, je sais pas s'il y a des numéros fixes, des numéros verts.
Il y a un numéro vert. Mairie, oui. Ouais. La mairie a créé un numéro d'information pour les habitants. Le souci qu'il peut y avoir, mais pour répondre plus précisément à Yves, c'est que ce soit un numéro de fixe ou un numéro de portable, aujourd'hui, tout passe par des box et Internet. Et c'est là où on voit la fragilité de nos systèmes, ne plus avoir de fil cuivre pour les communications sur le fixe. Alors oui, c'est plus pratique pour tout le monde, oui, c'est plus moderne, mais il n'empêche qu'en cas de catastrophe comme ça, quand il y a un relais téléphonique qui pète, quand le réseau Internet pète, eh ben, en définitive, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudra réfléchir dans les mois qui viennent, sur comment on peut continuer à communiquer. Est-ce qu'il y a des systèmes qui nous permettent de communiquer sur tout notre territoire sans dépendre d'une seule chose? Moi, à chaque fois, en fait, c'était déjà le cas à Romeyé, mais à chaque fois qu'il y a un élément de catastrophe qui touche le territoire, je repense à ma lecture d'ado, mais d'il y a aussi pas longtemps, parce que je l'ai relu, de Ravage. Ravage de Barjavel, c'est une société qui ressemble à la nôtre aujourd'hui, qui dépend que de l'électricité et qui s'effondre du jour au lendemain. Et or, aujourd'hui, dans les low-tech, on a pas mal de moyens de pouvoir justement être résilient et de pas dépendre de ça. Ça serait peut-être bien de tous mettre ensemble et puis de voir ce qu'on peut faire pour les prochaines fois qui nous toucheront, j'espère le plus tard possible, mais qui nous toucheront.
Il y a l'étape et puis il y a le viaduc aussi. Il y a énormément de monde en permanence sur le viaduc et je pense que dans les formes de solidarité, il y a évidemment la partie visible et hyper importante du gymnase, de cette coordination, du bûcheronnage, du ravitaillement, etc. Mais il y a en fait juste le soutien mutuel. Il y a des personnes qui sont en panique, qui sont en détresse, qui pleurent, qui ont peur, quoi. Et notamment sur le viaduc, il y a énormément de, je sais pas comment dire, d'entraide comme ça, spontanée, de cercles d'écoute, de paroles, de soutien psychologique qui s'improvise. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment, vraiment important. Et
du coup, peut-être ouais, préciser, en fait, tu parles du viaduc plutôt en fin de journée où les gens se rassemblent le soir,
toute
c'est
la
ça
nuit, le soir et toute la et nuit, il y a du, ouais, monde. Ouais, et puis même en journée, il y a des moments, ouais, où ouais, il y a eu ce moment après le marché, là, mercredi, où les flammes étaient pour la première fois vraiment visibles depuis la ville.
Ouais.
Et il y a eu un moment où on avait l'impression qu'il y avait un rassemblement spontané sur le viaduc avec la parole qui circulait comme ça et ça a duré.
Voilà, c'est nécessairement en soirée parce que je suis allé au viaduc en fin de matinée, le soleil tape bien fort, il n'y a pas grand monde. Hein,
c'est ça.
Donc,
il faut aussi noter les initiatives de la communauté des soignants du territoire. Oui.
C'est PTS, qui organise aussi une cellule d'écoute aux 12 rues Émile Laurent.
C'est ça.
Voilà. Et donc, de 18h à 20h, je crois même qu'ils ont modifié, amplifié l'horaire d'ouverture, je crois.
Et la CCD, on a aussi une, enfin, il y en a plusieurs. Mmh. Ouais. Mmh.
Non, mais je pense qu'on on est vraiment conscient, et aujourd'hui, et les flammes, et les fumées, et le sentiment que certains peuvent avoir sur le manque d'informations fait que le stress augmente de jour en jour, et que ces initiatives-là de soutien, d'écoute, de parole, elles sont ultra importantes pour la communauté pour pouvoir tenir sur le long terme. Ce qu'il faut aussi noter, c'est les solidarités qui sont naturelles et non visibles. On a des amis de Barsac qui habitent à 200 mètres de notre logement. Ils se sont fait prêter une maison. Moi, j'habite en habitat partagé. On a ouvert l'habitat, et il y a des personnes qui ont été évacuées qui arrivent et qui repartent quand elles ont trouvé quelque chose d'autre. Donc, je pense qu'il y a la solidarité locale. Elle est immense et beaucoup plus importante que celle qui est déjà notée comme positive par les pompiers. Il y a de la solidarité de partout. Et moi, c'est ce qui me fait dire qu'on a les moyens de réfléchir ensemble pour le futur.
Existe-t-il justement périodiquement, ou voire régulièrement, des réunions? Vous parliez du viaduc en soirée, mais des réunions pour justement échanger ou informer ou prendre des informations dans le DIWA. Alors, est-ce que cette organisation, par exemple pour l'étape ou sur le viaduc, existe aussi sur d'autres villages autour de la montagne Justin?
Oui, il y a aussi, justement, je voulais en parler, il y a aussi des choses qui se passent en dehors de d'IMEM. Sur Barsac, par exemple, ils ont mis en place un bulletin d'info quotidien que reçoivent tous les habitants de Barsac, où qu'ils soient d'ailleurs, puisqu'ils ont été évacués. Et puis ceux qui n'ont pas de mail, ils ont quelqu'un qui leur lit, parce qu'ils se croisent aussi physiquement, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place de ce côté-là. De l'autre côté, du côté de Montmort, il y a des gens qui se retrouvent tous les soirs du côté de la Scuderia, parce qu'en fait, il y a une terrasse, qu'on voit l'étendue du truc, et puis que c'est le lieu, en fait, le plus proche où se rassembler. Et c'est là aussi où on voit l'importance que ça a, c'est le lieu de, je sais pas comment dire, de sociabilité, en fait, en zone rurale, quoi. Franchement, moi, j'ai jamais été aussi contente d'avoir un troquet en bas de la route de chez moi, et où on peut descendre, et où on sait qu'on va croiser des gens, qu'on va pouvoir discuter, même avec des personnes qu'on connaît pas, parce qu'il y a un truc qui nous rassemble, qui est qu'on habite le même territoire, et que ce territoire, il est en feu, quoi. Donc, je pense que, enfin, pour moi, il y a un truc effectivement qui est très important dans le fait d'avoir des espaces physiques pour se retrouver. Après, j'imagine qu'on va venir là-dessus, quoi. Mais c'est super, la solidarité, et on n'a pas parlé aussi, des paysannes et des paysans qui mettent à disposition, y compris des cuves. Enfin, je veux dire, on en est à récupérer des bennes étanches de vidange pour avoir des points d'eau pour que les pompiers puissent se ravitailler sans avoir à faire 45 minutes de route pour aller jusqu'à la rivière. Mais en fait, c'est juste hallucinant, quoi. Enfin, je veux dire, dans quelle société du 21e siècle on a besoin que les agris fournissent des bennes de vendange pour que les pompiers aient de l'eau, quoi.
En début de semaine, j'ai reçu un appel. Alors, Antoine Petitpré m'a appelé justement en début de semaine pour indiquer un peu son désarroi sur les propositions opérées par certains paysans pour amener de l'eau ou proposer de l'eau aux pompiers. Et par cela, sa déception était celle d'un non-retour des services préfectoraux. Et donc, il y avait une certaine colère. De cet écart.
En tout cas, à Barsac, par exemple, c'est le cas. Enfin, là, pour le coup, je l'ai vu, parce que Maintenant, je ne dis plus rien que je n'ai pas vu de mes yeux vus, vu le nombre de trucs qui circulent complètement fantaisistes. Mais pour le coup, ça s'est mis en place dans certains endroits, mais ça s'est mis en place un peu, j'ai l'impression, de gré à gré, quoi. Très honnêtement, sur le terrain et localement, en fait, moi j'ai l'impression que tout le monde est un peu dépassé et on peut en vouloir à personne. Par contre, en vouloir nos gouvernants d'être dépassés par une canicule et un incendie en 2026, là, pour le coup, cette colère-là, cette indignation-là, elle est vraiment légitime. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de l'impuissance qui a assisté à l'incendie, l'impuissance doublée du sentiment qu'un certain nombre de choses auraient pu être évitées, ou en tout cas amoindries, ou avec moins d'impact, avec un minimum de préparation au niveau national. Là, pour le coup, vraiment, ça rajoute une grosse dose de colère au sentiment d'impuissance, quoi.
Ouais, clairement, il y a...
Vas-y.
Bah, je veux dire, au moment où le feu a repris, il y a un choix qui a été fait de ne pas donner la priorité aux Diwa, parce que dans les Pyrénées-Orientales, il y avait des villages qui étaient menacés. Donc il y a eu un choix qui a été fait de, entre guillemets, sacrifier la montagne de Justin, en tout cas dans un premier temps, ce qui donne ce qu'on voit aujourd'hui, où en fait quand même les pompiers le disent, en tout cas quand on a des conversations en off, que c'est une situation qui est globalement hors de contrôle. Évidemment, ce choix de déprioriser Justin par rapport aux Pyrénées-Orientales et à des villages, il est en soi normal, compréhensible, parce qu'on ne va pas se dire on va sauver une montagne dans laquelle il n'y a pas de logement, d'humains, etc., par rapport à des villes ou des villages. Mais c'est totalement anormal dans un pays comme la France, qui a des ressources, qui est quand même une des... la 7e puissance économique mondiale, qu'on en arrive à devoir faire ce choix-là. Et le fait qu'on en arrive à devoir faire ce choix-là, c'est la conséquence de choix politiques qui ont été faits par le passé. Et en fait, il faut qu'on se donne les moyens de ne plus avoir à faire ce choix-là. On ne devrait pas avoir à choisir est-ce qu'on sacrifie un massif forestier parce qu'il n'y a pas d'habitants humains dedans, ou est-ce qu'on sacrifie un village. En fait, on ne devrait pas avoir à faire ces sacrifices. Et on voit bien que ce sacrifice, par ailleurs, qui a été fait à un moment donné, bah, il a failli avoir un coup sur Montmort ou sur Barsac, sur des habitations, et que par ailleurs, je ne sais pas les conséquences, par exemple, sur le vignoble, ce que c'est, mais je pense que l'économie du territoire, elle va être bouleversée durablement dans les années à venir. Le tourisme va quand même en prendre un sacré coup, parce qu'il va falloir avoir envie de venir passer des vacances d'été dans un endroit où tous les 3 ans ça brûle et où par ailleurs la forêt est dévastée. Donc à un moment donné, ces choix-là, ils sont éminemment problématiques et il faudra qu'on arrive à les discuter. Et si il n'y a aucune maison qui brûle, on croise les doigts pour que ça reste le cas, ça doit tout au sacrifice des pompiers, des militaires et des agriculteurs, des bûcherons, etc., dont on parle, qui ont été aussi délaissés par le manque de moyens aériens à un moment donné, quoi.
Et puis le sacrifice aussi de personnes qui ont pris des années à aménager l'endroit où ils vivent pour qu'il soit agréable, pour qu'ils aient de la végétation autour, justement, pour lutter contre les fortes chaleurs et tout. Et là, moi, je lisais, enfin, vraiment, j'ai lu un témoignage sur les réseaux sociaux hier.
Le témoignage d'Alice.
Oui.
Ah non, mais il est terrible.
Et, pardon, mais en fait, c'est elle explique comment elle est en train de démonter.
Les détruire, tout ce qu'elle a créé.
Détruire tout ce qu'elle a créé pour que le feu ne vienne pas brûler son habitation. Et en fait, c'est on peut pas rester indifférent à ça. Et moi, c'est pour ça que je suis en colère, et c'est une colère qu'il faut qu'elle nourrisse la réflexion à venir, parce que le qui aurait pu prédire de Macron il y a 4 ans, en fait, c'est juste devenu insupportable. René Dumont le disait en 74, Haroun Taziev le disait en 79, Jean Jouzel, tous les scientifiques du GIEC le disent depuis 50 ans. Moi, j'ai retrouvé chez mes parents une revue qui s'appelle La Nature n'en peut plus, écrite en 1970 sous l'égide du ministre de l'Agriculture. Et l'édito du ministre de l'Agriculture français disait, en fait, si on continue comme ça, il va y avoir des sécheresses, il y aura des incendies, il y aura des catastrophes. Mais putain,
on y est.
Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 60 ans ? Et qui sont les responsables du fait qu'on ait mis ça sous le... que ça a été complètement invisibilisé. Et moi, en fait, je suis très, très en colère là-dessus et sur les choix qui sont faits par les différents gouvernements et même les différents exécutifs. Hein. Je suis conseiller régional. Franchement, recevoir la semaine dernière le journal de la région qui parle de sécurité pour les habitants et de tout ce qu'ils ont fait pour la sécurité pour les habitants. Alors, OK, pour un certain nombre de choses, mais en fait, la première des sécurités, ça serait qu'on puisse vivre sans avoir à craindre que notre maison va brûler. Moi, j'allais dire, il y a eu des moments où la région s'est investie sur les catastrophes naturelles qui ont eu lieu. Il y a eu de la grêle à Romans, il y a eu des incendies même dans des lycées, il y a eu des inondations dans la région de Givors. Il y a eu des plans d'urgence qui ont été faits par la région. J'espère que le Diwa ne sera pas sacrifié par la région et qu'on aura aussi un plan d'urgence parce que, comme le disait Nicolas, je finis là-dessus, mais c'est le tourisme. C'est la biodiversité qui est touchée et notre territoire, il a aussi besoin de ses habitants non humains pour pouvoir continuer à vivre et à se défendre. On a besoin d'avoir un territoire qui puisse continuer à accueillir des troupeaux et autres. Et là, en fait, cette catastrophe, elle vient vraiment interroger ce qu'on n'a pas mis en place depuis des années, quoi.
Je reviens un peu sur d'autres aspects pratiques pour les pompiers. C'est les pistes forestières. Madame Moucheron, que j'avais enregistrée la semaine dernière, m'a indiqué que les pistes forestières n'étaient plus entretenues. De là, du matériel militaire, les bulldozers sont venus les réouvrir hein, autour de Justin. Cette gestion des pistes forestières, sont sous quelle égide ?
Alors, il y a quand même des statuts différents sur les massifs. Il peut y avoir des forêts domaniales, il peut y avoir des forêts privées. Il y a des groupements forestiers qui existent entre les propriétaires privés. Et en fait, sur cette question des pistes, de leur entretien et du fait qu'il faut qu'elles soient adaptées au matériel qu'ont les pompiers aujourd'hui qui sont, du fait de la violence des feux, beaucoup plus importants. Il y a un moment, il faut se poser la bonne question, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à avoir des pistes qui font effectivement 8 mètres de large pour que les camions de pompiers puissent circuler, quitte à avoir effectivement un impact sur la biodiversité, mais d'avoir cet impact localisé, c'est peut-être mieux que de voir une montagne complète brûler.
Bien que les pompiers indiquent que 3 mètres leur suffisent hein, pour une piste. Je reviens sur un autre...
Pas pour tous les matériels. Il y a un débat aujourd'hui autour des trois becs et des pistes qui sont prévues là-bas. Un débat qui est obligé de se faire en urgence, encore une fois, parce que l'État a dit que c'était la dernière année où il y aurait des aides pour ouvrir des pistes forestières. Si on n'avait pas une pression de l'État sur ces questions-là, si on avait les vrais moyens de poser tout le monde autour de la table, que ce soit des forestiers, des naturalistes, toutes les personnes qui travaillent dans la forêt, mais de manière sereine et pas dans l'urgence, on n'en serait pas à avoir des débats stériles où les uns essaient de trouver des boucs émissaires sur une situation qui, de toute façon, même avec des pistes entretenues, malheureusement, sans les soutiens aériens qu'on n'a pas eu à la reprise du feu, n'auraient pas forcément réglé la situation.
Voilà, un pompier m'indiquait d'ailleurs qu'avec les canyons où se trouve l'incendie, c'était très difficile pour les pilotes de Canadair d'y accéder. Hein. Alors, une autre question qui m'a beaucoup interpellé, c'est une habitante qui habite au-dessus de la déchetterie et qui a remarqué, à la suite du premier incendie et son extinction, l'émergence d'une fumée en milieu de semaine à partir du mardi ou mercredi de la semaine dernière. Et elle a tenté pendant 2 jours d'appeler les secours. Et on lui répondait qu'elle ne pouvait rien faire. Et c'est cet incendie de là qu'est reparti, cet incendie. Alors, les moyens, effectivement, manquent vraiment.
Ouais, faudra faire le bilan à un moment donné de ce qui s'est passé du point de vue de la gestion de ce feu. Je pense que c'est peut-être pas le moment de le faire pour le coup. Mais oui, à un moment donné, il va falloir que... Mais ce n'est pas forcément... Enfin, peut-être, justement, j'allais dire que ce n'est pas forcément à nous de le faire. C'est au niveau du SDIS et de la préfecture et de l'État que ça doit se faire. Mais peut-être, au contraire, qu'il faut que nous, les citoyens et les citoyennes, on s'en saisisse et qu'on dise bah, on aimerait quand même savoir les erreurs qui ont été faites, les choix qui ont été faits, comprendre ce qui est légitime, ce qui a déconné, pas forcément pour régler des comptes, mais simplement pour savoir, parce qu'on a le droit de savoir pourquoi cette montagne a été dévastée et pourquoi ces 4000 hectares de zone qui a été parcourue par le feu ont été un peu abandonnés, et surtout pour que ça se reproduise pas à l'avance, quoi. Il faut qu'on apprenne de ce qui a été fait, parce que c'est les étés qui nous attendent à l'avenir, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on est parti pour avoir dans le Diois tous les 3 ans un gros feu comme celui de Romeyer, puis celui-ci, dans des massifs qui, de fait, sont hyper difficilement accessibles. Dire si, à un moment donné, c'est les pentes du Glandas qui brûlent, on peut parler de pistes forestières de 3 mètres ou de 8 mètres de large, mais enfin, dans des pentes à 40 degrés, on ne peut pas faire de pistes forestières. Dans des pentes qui sont au pied des falaises, effectivement, les cananères, c'est compliqué d'envisager qu'ils passent. Donc, qu'est-ce qu'on fait si un jour la foudre elle frappe quelque part au-dessus du château à Romeyer ou sur la réserve des Hauts Plateaux et qu'on apprenne de ça, quoi, parce que c'est ce vers quoi on voit. Et donc ça serait bien qu'on ait un moment de vérité, un peu, encore une fois, pas pour couper des têtes ou quoi, mais simplement pour comprendre ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on s'organise pour éviter que ça se reproduise.
Le fait que cette réponse de ne rien pouvoir faire, c'est justement indiquer un manque de moyens, de toute manière. Par rapport à cet élan de solidarité sur les territoires que vous avez pu indiquer, et peut-être le souhait de pérenniser cet élan de manière à maintenir une vigilance sur le terrain, est-ce qu'il y a une réelle... vous avez ressenti cette nécessité auprès de la population de pouvoir préparer le futur qui tendrait peut-être à se répéter par rapport au climat?
Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai...
Par rapport aux discussions, j'imagine que vous discutez...
Fait, j'ai l'impression... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment compliqué de répondre à cette question-là pour l'instant. J'ai l'impression qu'on est encore trop... on est tellement encore le nez dans le guidon, là, qu'en fait, les discussions qu'on a, honnêtement... Enfin, moi, en tout cas, les discussions que j'ai, là, c'est pas du tout sur le futur, quoi. C'est vraiment sur...
L'immédiat.
L'immédiat et au maximum demain, quoi. Tout est encore tellement imprévisible. Il y a des choses que je pensais impossibles il y a 2 jours qui sont en train d'arriver, y compris en termes de déploiement, de développement de certaines têtes de feu. Enfin, donc du coup, enfin voilà, moi j'aurais vraiment du mal à répondre à cette question. Après, on peut évidemment imaginer qu'il y a des liens qui là se créent. Comme souvent dans l'adversité, dans le fait d'être les premiers sur place à répondre, enfin tous les humanitaires connaissent ça, et que ces liens-là, en fait, c'est des liens qui sont ultra puissants, qui sont des liens qui vont bien au-delà des liens affinitaires, qui vont bien au-delà des complicités idéologiques, qui vont au-delà de tout, en fait. Je veux dire, s'être pressé le bras pour se consoler en regardant le feu, c'est... Moi, en tout cas, j'ai envie de penser que c'est un truc qui fait que peut-être on hésitera un petit peu plus à s'insulter et à s'envoyer des saletés à la gueule demain, quoi. En tout cas, j'espère. Voilà, que ça crée au moins un sentiment d'humanité réciproque. Ça ne veut pas dire que demain, on va être d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on va faire les mêmes choix, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on va vivre dans un monde d'harmonie. Mais si au moins, ça peut créer des liens qui font qu'on hésite un petit peu plus avant de se mettre sur la gueule, franchement, ce serait pas mal.
Nicolas, il y a aussi un autre aspect, c'est la nature, et puis la flore, les animaux qui souffrent énormément, j'imagine.
Bah ouais, mais c'est, enfin, pour aller dans le sens de Corinne, quoi, je pense que c'est un moment de remise à plat. Y a un côté, enfin, quand on va notamment le soir là, regarder ce front de feu qui fait 15 km, cette bande de feu, y a un côté apocalyptique, mais l'apocalypse, c'est un moment de révélation, en fait, et de remise à plat. Et la remise à plat, c'est de se dire que, en fait, on a toutes et tous perdu quelque chose. Les chasseurs comme les naturalistes qui kiffent pas la chasse, les gens qui vivent du tourisme comme ceux qui trouvent que bah il y a un peu trop de motards dans le Diois, les gens qui vivent de telle ou telle chose ou qui pensent telle ou telle chose, en fait on est toutes et tous au même niveau, et peut-être qu'il faut partir de là, quoi, de se dire en fait là on est voilà, moi je sais que à un moment donné Je me suis pas mal heurté contre certains des réseaux sociaux du Divois en trouvant que c'était des endroits depuis lesquels étaient diffusés des fake news ou des messages pas hyper ouverts. Bah, ces réseaux sociaux, c'est un des lieux depuis lesquels s'organise la solidarité actuellement. Donc peut-être qu'on peut se dire, ok, on remet un peu les choses à plat. On remet les choses à plat une fois que le feu sera passé, une fois que l'incendie sera éteint, et on voit comment ensemble, je veux dire, les chasseurs, comme les trailers, comme les vététistes, comme les naturalistes, ont perdu 4000 hectares de terrain. Et clairement, je veux dire, je sais pas sur combien d'années à venir, mais chasser dans Justin, c'est juste une hérésie. Et donc, comment on fait à l'échelle du territoire pour que chacun, chacune trouve son compte, puisse, voilà, il va falloir qu'on se parle, quoi, qu'on continue à se parler. Là, on agit et on fait des choses ensemble. Et ben, il va falloir qu'on se parle et qu'on prenne des décisions collectives. Et ça, c'est un moment qui est une opportunité, en tout cas.
Mais là, on parle de l'après. Il va falloir qu'on se parle. Moi, je pense que aussi.
Par rapport à la nature, les animaux, je parle dans l'immédiat. Hein.
Pour les animaux, c'est la catastrophe.
Oui, mais est-ce qu'il existe des points, justement,
Pour la faune sauvage, on l'a vu, mais même avant l'incendie, la sécheresse a eu un impact monstrueux. Tous les centres qui s'occupent de recueillir les animaux qui souffrent de ces changements-là ont été obligés d'arrêter d'accueillir parce qu'ils étaient blindés. Là, évidemment, avec un incendie, la faune des forêts est très, très impactée, mais également les animaux d'élevage. Et c'est là aussi où je vous conseille d'aller voir la communication que la Confédération paysanne de la Drôme a fait hier, où ça montre la solidarité qu'ils ont mis en place. Ça montre aussi tout ce qui a été fait pour sauver les animaux d'élevage, les accueillir à des endroits où ils craignent moins, essayer d'en sauver le maximum. Et c'est quelque chose qu'un syndicat agricole a fait. Et ces choses-là, ça devrait être déjà pris en compte dans des plans de sécurité globales qui sont faits par les autorités, quoi.
Actuellement, les routes sont plutôt réservées aux secours, donc éviter au maximum d'utiliser les trajets, les circulations routières. Et donc, peut-être l'importance d'établir des points dans des villages, de manière à peut-être centraliser dans chaque village des recueils ou des propositions d'aide ou de soutien. Est-ce que ça, c'est une chose qui s'opère tout doucement, finalement? Je vois des annonces de certains villages, au niveau de Minglon, par exemple. Il y a un esprit de solidarité. Alors, comment se fait le lien? Est-ce qu'il faut malgré tout s'y déplacer? Ou alors, il y a peut-être le téléphone des particuliers qui puisse transmettre ou relayer?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se font un peu par capillarité, quoi, par juste voisinage, en fait, comme souvent. Enfin, je veux dire, dans les villages, ça fonctionne quand même beaucoup comme ça. Après, ce qui est difficile, c'est les villages où il n'y a pas vraiment d'espace, justement, de sociabilisation. On a quand même beaucoup de villages où il y a pas d'épicerie, il y a pas de troquet, il y a pas de, enfin voilà, il y a, en fait, il y a pas de lieu de rassemblement naturel.
À part une mairie.
Et après, voilà, il y a les mairies, il y a des mairies qui organisent des repas pour le 14 juillet. Ça va être autant d'occasions, évidemment, pour les gens de se voir, de se rencontrer, de discuter ensemble. Et après, il y a aussi... alors, je sais que tout le monde râle en ce moment contre les attroupements sur les bords de route, parce que, notamment de nuit, c'est vrai que c'est ultra dangereux. On a beaucoup de personnes qui stationnent sur les bords de route la nuit pour regarder les flammes, et parfois, c'est vraiment, vraiment dangereux. Donc, voilà, on appelle tout le monde à la prudence. Mais n'empêche qu'il y a aussi des attroupements de jour qui créent, en fait, des espèces de mini-lieux de rencontres. Moi, je sais que, c'est le cas vers Pont-de-Car, c'est, j'imagine, le cas à d'autres endroits. Et puis parfois, en fait, on passe, on voit qu'il y a des gens, on s'arrête, c'est l'occasion de discuter un peu. Et parfois, c'est aussi l'occasion d'échanger des informations. Et moi, je crois que là, en ce moment, tous ces points de contact-là, en fait, faut les prendre, quoi. Et y compris ne pas hésiter, même quand on ne connaît pas les gens, à s'arrêter. Enfin, moi, je pense que je n'ai jamais parlé à autant de personnes inconnues de ma vie que depuis 3 jours, en fait. Je parle à tout le monde, je demande à tout le monde si ça va. Et en fait, je m'en fous d'avoir l'air ridicule. Je m'en fous que les gens me regardent bizarrement. La plupart du temps, d'ailleurs, ce n'est pas le cas, en fait. Parce que là, tout le monde a envie de parler. Tout le monde a envie d'échanger. Tout le monde a envie de trouver un sourire. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de dire surtout ça, en fait. Faut surtout pas là hésiter à s'arrêter, à demander aux gens si ça va, à engager la discussion et à soi-même aller rechercher le contact quand on sent qu'on en a besoin. On a parlé des permanences de soins psy. Faut pas hésiter à y aller. C'est pas des permanences qui sont réservées à des personnes en urgence vitale. Faut pas hésiter à y aller, même si vous avez l'impression que c'est pas grave, c'est juste que vous pleurez un peu et que vous êtes un peu triste, allez-y quoi. Voilà, c'est fait pour tout le monde et c'est vraiment important d'en profiter parce qu'on a quand même une chance incroyable que tout ça se mette en place. Je suis pas sûre que ce soit le cas sur tous les territoires.
Existe-t-il des panneaux d'affichage justement d'information qui se soient mis en place ?
Je sais pas s'il y a des panneaux d'information. Moi, ça, de toute façon.
Non, mais à l'initiative de la population.
Il y a de l'affichage, notamment du numéro de la mairie. Je sais que les scouts passent dans les maisons pour donner le numéro d'appel de la mairie. J'ai vu Jean-Paul de la commune libre de Saint-Marcel faire le tour ce matin en affichant le numéro de la mairie. Il y a vraiment plein d'initiatives qui se font pour qu'il y ait la meilleure communication possible et que personne ne reste sans information. Mais il n'empêche quand même qu'il faut s'interroger sur les informations qui sont données. Et je pense que la population entière du Diwar qui est vraiment au plus près de l'incendie. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit du Diwa où on habite, on est impacté. Et moi, je pense qu'il y a quand même un manque d'informations et qu'il serait bien que toutes les informations disponibles soient données d'une manière claire, précise, centralisée aux habitants, mais toutes les informations, parce qu'on entend vraiment des choses très contradictoires sur le territoire, et je pense que les meilleurs pour faire ça, c'est les élus locaux et pas forcément l'État et donc ça aussi il faudra y réfléchir pour la suite de qui est le plus légitime pour informer sa population.
Ouais, voilà, parce que les élus locaux ont été entre guillemets repris en main par la préfecture qui a dit voilà, c'est nous qui communiquons désormais et plus notamment la mairie de Die. Alors le prétexte c'est qu'il y a plusieurs communes qui sont affectées, pas seulement la ville de Die, c'est vrai, mais du coup on est dans une situation dans laquelle on est forcément dans une situation d'incertitude et c'est déjà dur à vivre, mais quand en plus on a des messages contradictoires. Hier, la préfète fait un point presse en disant qu'elle veut tordre le cou aux rumeurs d'évacuation de Die et que l'évacuation de Die n'est pas à l'ordre du jour. Et dans le même temps, il y a des gendarmes qui parcourent la ville pour dire que si la sirène sonne, c'est qu'il faut évacuer. Et que voilà. Donc ces contradictions-là, peut-être qu'elles sont compréhensibles, mais justement les expliquer, prendre le temps de dire en fait, on vous informe des procédures, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas. C'est pas la même chose que d'avoir d'un côté quelqu'un qui dit ça n'arrivera pas et de l'autre le sentiment inverse qu'en fait ça risque d'arriver. Il y a eu la même chose, moi j'y ai contribué parce que j'ai à un moment donné diffusé dans certains cercles l'information qu'il y avait des contre-feux qui avaient été allumés et puis on nous a dit non c'est pas des contre-feux et puis en fait si et puis en fait non et puis en fait si et en fait personne ne sait et il y a des sources hyper informées qui disent une chose et son contraire. Il y a des pompiers qui disent c'est des contre-feux. Il y a des pompiers qui disent c'est pas des contre-feux. Il y a une partie du commandement ou du PC sécurité qui dit c'est pas des contre-feux et d'autres personnes qui sont impliquées dans les décisions qui disent si c'est des contre-feux. En fait, c'est important de. Il y a 30 ans, on s'en fichait un peu parce qu'il n'y avait qu'une seule parole et elle circulait pas autrement que par la presse et de manière descendante. Mais on sait que ça fonctionne plus comme ça maintenant. Et donc avoir des messages relativement clairs. Et plus de communication plutôt que pas assez, à mon avis, c'est hyper important. Dans une situation de crise, je pense qu'on ne surcommunique jamais, en fait.
Et sur cette question, justement, des contre-feux, la préfète en a parlé comme étant une possibilité pour lutter contre les incendies. Mais sur un front qui est sur des dizaines de kilomètres, effectivement, ça peut être utilisé à un endroit, pas utilisé ailleurs. Les personnes peuvent se poser la question, donc avoir une communication précise. Ce n'est pas forcément le manque de communication, mais des communications qui soient précises. Oui, dans un reportage de BFM d'hier, le maire de Montmort disait, bah oui, les pompiers ont fait des contre-feux pour éviter que les maisons brûlent. Donc, il y a bien eu des contre-feux. Mais sur Justin, est-ce que c'en était ou pas? En fait, le mieux, ça aurait été de dire, on va utiliser cette méthode-là à tel endroit et tel endroit. Et en fait, ça coupait court à toutes les discussions.
L'heure est terminée. Je vais vous libérer pour peut-être retourner sur le terrain. Certainement que dans les semaines à suivre, vous serez peut-être de nouveau dans ce studio. Peut-être même plus tôt, j'en sais rien. En fait, au vu de la situation, c'est tellement changeant qu'on ne peut plus rien prévoir vraiment actuellement. Eh bien, je vous remercie en tout cas Corinne Morel-Darleux, Olivier Royer et Nicolas Héringer d'être venus sur Air du Bois pour nous parler de cette situation de l'incendie de Justin.
Merci beaucoup.
Ouais. Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir. À toi.